Prenez soin de vous. Prenez du soleil. Prenez soin des vôtres. Prenons soin des autres. Marceau s'en vient. Sextape s'en vient avec Audrey. On se reparle demain midi dans le Pit Stop, 14h dans le retour. Bye.
Une station créée pour les gens de Québec. Pas de script, pas de personnage, pas de rire en canne, de la spontanéité à l'état pur. Ici, la radio que vous voulez entendre avait l'instinct de parler de ce qui vous intéresse.
That's amazing.
Et jouer la musique que vous aimez.
There's nothing fake.
Chaque jour, on vous livre notre quotidien, votre actualité, au rythme de ce qui se passe dans notre ville et partout ailleurs dans le monde.
Bring the country together.
Mettant en vedette plein de dudes pis de dudettes bien sympathiques qui connaissent leur affaire.
Know it until now.
Aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur Boulevard 102.1. Mon nom c'est Yann Marceau, je t'accompagne pour les 60 prochaines minutes. J'espère que tu as passé une belle journée. C'était une belle journée ensoleillée, un peu comme hier, soit dit en passant. On est en gougoune hier, aujourd'hui c'était peut-être un peu plus frais. Mais quand même, on a atteint un coin genre de 16-17 degrés. Oui, on me dit 17 ici. Salut Denis. Ben, on nous annonçait un maximum de 16, donc on a dépassé ce qu'on nous annonçait au départ. C'est rare que ça arrive. Ce soir, cette nuit, généralement nuageux avec un minimum de 9 degrés. Pour ce qui est de demain mardi, généralement nuageux avec un 60 % de probabilité d'averse maximum de 19. Pour ce qui est de demain, mercredi, des averses avec un maximum de 17. Jeudi, de la pluie intermittente avec un maximum de 11. Et vendredi, ce sera nuageux avec un maximum de 10 degrés. Salut, mon nom c'est Yannick Marceau. Je fais le podcast Marceau le soir depuis déjà plusieurs années. Ouais, ouais, ça fait quoi? 2 ans à peu près que je fais ça ici sur les ondes de boulevard et c'est toujours un plaisir. Et parlant de plaisir, ben, comme à chaque lundi, j'ai l'ex-ministre de la Justice avec moi pour parler d'actualité, Maître Marc Bellemare. Donc, le podcast débute à l'instant, à partir du moment où je pèse sur ce piton-là.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Maître Bellemare, quel plaisir encore de vous avoir avec nous ce soir. Comment allez-vous?
Très bien. Et toi?
Oui, ça va bien. On a passé un beau week-end. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de sortir hier, mais on avait du 15, 16, 17, 18, 19
ouais,
degrés.
Oui, c'est tellement le fun, là. Hein? Surtout, puis Montréal, il y a quand même aussi une différence par rapport à Québec de température. Alors, je pense que tout le monde y a trouvé son compte en fin de semaine. C'est super. Écoute, as-tu fait changer tes pneus d'hiver, toi?
Mes pneus d'hiver, moi, j'ai des pneus, je suis un chanceux. Moi, j'ai un Wrangler, un vieux Wrangler 2014. Puis mes pneus, je les achète. J'ai payé quand même assez cher. Puis ça me toffe 12 mois par année.
OK.
C'est des pneus qui sont homologués. C'est pas des pneus 4 saisons. Là. En fait, oui, on dit ça, des pneus 4 saisons, là, mais c'est des pneus qui sont faits pour ça, pour pouvoir toffer 12 mois par année. Mais non, j'ai pas encore fait changer mes pneus. Mais si vous avez des pneus d'hiver, les amis, c'est le temps de les faire changer parce qu'à partir du moment où les températures chaudes arrivent, ben là, nécessairement, vous perdez de l'adhérence puis vos pneus s'usent pas mal plus facilement. Là. Donc, allez faire...
Ouais, je comprends.
Il n'y aura plus de neige, là.
Moi, j'ai vérifié mon agenda. J'ai pas de cause à Chicoutimi à court terme parce que je me suis déjà fait prendre dans le parc des Laurentides entre Québec et Chicoutimi. Écoute, je pense que c'était tard dans le mois de mai.
Ouais.
Écoute, la neige, la glace, la grêle, écoute, c'était épouvantable. Alors, depuis ce temps-là, j'ai ma leçon et je vérifie toujours mon agenda pour être sûr que il n'y aura pas de... C'est la même chose pour le parc de la Vérandrie. Tous les parcs sont très montagneux. Puis quand tu arrives en haut de la butte, là, souvent, tu vas avoir les 4 saisons en même temps dans un voyage de 2 heures.
Ben oui.
Il va neiger, il va pleuvoir. C'est l'enfer. Alors, faut faire bien attention. Mais si tu ne te déplaces pas, c'est le temps de changer les pneus. Mais si tu te déplaces, regarde les endroits que tu dois fréquenter au cours des prochaines semaines parce que le Québec, là, c'est une drôle de bébite, hein?
Oui, vraiment, vraiment. Puis moi, j'avais vécu ça aussi à Salt Lake City. Salt Lake City, là, j'étais... avant d'arriver à Salt Lake City, j'étais à moto. Puis j'étais dans le désert. Il faisait chaud, c'était épouvantable. Puis quand j'ai grimpé dans les montagnes, Maître Bellemare, là, il y avait de la neige en haut comme pas possible. J'ai eu froid. C'était hallucinant. J'avais pas pensé à mon affaire pantoute. Puis j'étais au travers de la neige, à moto, avec mon gilet capuchon. J'avais hâte de redescendre pas mal.
Ouais, hein? Non, on peut avoir encore des petites bordées, mais ça dépend du secteur du Québec. Ça dépend si tu es à Saint-Jean-Richelieu, sur le Richelieu, ou si tu es à Chefferville. Évidemment, il peut y avoir des différences, mais il n'y a rien de pire que de se retrouver avec des pneus d'été dans des conditions hivernales. Puis c'est pas juste au début de l'hiver qu'on se fait poigner, des fois c'est à la fin. Alors,
pourtant, Maître Bellemare, vous faites partie de la génération où les pneus 4 saisons, c'était hyper populaire, où c'était pas rare de voir Gérard qui se promenait avec son véhicule avec les pneus, pardonnez-moi l'expression française, les pneus sur la fesse.
Non, moi, c'est vrai qu'il y en avait. Il y a toujours eu toutes sortes de conducteurs, mais moi, dans mon monde civilisé, tout le monde a des pneus d'hiver. Mais toi, tu as tes pneus passe-partout, là, qui sont supposés être bons, mais moi, je vais te dire une affaire. Quand c'est bien glacé, c'est mieux d'avoir une excellente adhérence parce que prendre le kilo, faire des tonneaux, puis se retrouver sur la Société de l'assurance automobile pour une bonne entorse cervicale. C'est pas payant. C'est pas payant.
Ouais. Vous travaillez beaucoup avec les gens qui ont eu des problématiques sur la route puis qui ont des problématiques physiques aussi. Est-ce que ça vous joue dans la tête, ça, quand vous êtes vous-même conducteur? Est-ce que vous y pensez des fois? Parce que vous avez eu des clients qui ont été fortement amochés, là.
Oui, bien sûr que j'y pense. Puis ça m'influence parce que je rencontre au quotidien des accidentés, des gens qui ont fait de l'hôpital, des gens qui ont fait du coma pendant 2-3 semaines, des gens dont les vies sont des paraplégiques. Moi, je travaille avec des victimes d'accidents d'auto à tous les jours. La moitié de mes clients m'appellent docteur, tu sais, tellement on est dans le médical tout le temps. Et bien oui que ça m'influence. Je fais attention, mais disons que je suis peut-être un peu rouleux quand c'est sec. C'est sûr que Montréal, Québec, sur l'autoroute 20, en juin, je suis porté à avoir le pied pesant pas mal. Mais l'hiver, j'aime moins ça, quand il fait noir à 4 heures, que c'est glacé, la glace noire. Puis pas juste par rapport à moi, par rapport aux autres conducteurs aussi, parce que c'est pas toujours toi qui décides d'être impliqué dans un accident d'auto. Ça peut être l'autre coco de l'autre bord qui s'en vient, là.
Ouais.
Et qui est mal chaussé, puis qui dérape, puis qui s'en vient sur ta travée, là. Ça peut être ça aussi. Alors, la plupart des accidentés, ce n'est pas nécessairement eux qui ont initié le traumatisme. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui les a coupés. Des fois, ça peut être une bête. Des fois, ça peut être un orignal. Des fois, ça peut être un chien. Des fois, ça peut être n'importe quoi. Alors, la route, il y a beaucoup plus de trafic qu'autrefois. Hein? Puis, il y a toutes sortes de risques aujourd'hui qui n'existaient pas nécessairement il y a 30 ans.
Puis, est-ce que vous avez déjà fait de la moto, Maître Bellemare? Je suis dans les grosses questions aujourd'hui. Ouais.
Un petit peu, mais pas beaucoup. Puis ça fait au moins 40 ans de ça. Fait que je devrais plutôt te dire non.
Puis c'est pas dans vos objectifs, là, à votre retraite, lorsque vous aurez 125 ans, d'embarquer sur une moto. Comme j'en vois plusieurs à chaque année, là, des messieurs qui prennent leur retraite puis ils s'en vont chercher des belles grosses Goldwyn. Là. Puis c'était le rêve de leur vie, c'était leur retraite. Puis malheureusement, comme ils n'ont pas d'expérience de pilotage de moto, ben malheureusement, après quelques minutes, la Goldwyn se ramasse sur le côté. Ça fait quelques décennies que je conduis une moto. Je vous dirais que ça fait plus... disons 30 ans que je conduis une moto. Et 3-4 fois, j'ai vu des messieurs que c'était leur cadeau de retraite de s'acheter une belle grosse moto. Les Goldwyn revenaient souvent, les Harley-Davidson revenaient souvent. Malheureusement, arrivé dans le stationnement, oublie de mettre le pied, puis la cante un peu trop d'un bord, puis la moto se tombe à terre. Ça arrive à chaque année, ça.
Mais moi, je vais te dire, là, j'ai déjà dit à un client qui était venu me voir, que je connaissais pas, je l'ai vu marcher dans le passage entre la salle d'attente puis le bureau chez nous, là. Puis je l'ai regardé marcher, puis j'ai dit, c'est un accident d'auto, hein? Il dit, comment ça se fait, vous savez ça? Ben, j'ai dit, juste à te voir, là, je te regarde, là, puis je suis sûr que c'est un accident de moto. Sais-tu pourquoi? Il y avait une boiterie.
Ouais.
Il avait 35 ans.
Ouais.
Il y avait une bonne grosse cicatrice dans le milieu de la face. Il avait une épaule plus basse que l'autre. Ça, on appelle ça un polytraumatisé. C'est-à-dire quelqu'un qui a été brisé tout partout. Plusieurs blessures. Puis ça, c'est très souvent des éjections, des gens qui ont été propulsés. Puis, ça peut arriver des fois un accidenté d'auto aussi qui a fait des tonneaux, que, tu sais, il s'est promené dans le bocal pas mal pendant que l'auto tournait. Mais les accidentés de la route, j'ai comme une façon particulière de les détecter, sans même qu'il m'en parle, juste à regarder le profil un petit peu de l'individu. Et puis, ou bien je leur demande tout bonnement, fais-tu encore de la moto? Là, ils sont tous surpris. Fais-tu encore de la moto? Parce que si tu fais encore de la moto, ça veut dire que tu as une certaine shape physique aussi. Alors, ça peut avoir une incidence. Quand c'est le temps, quand tu es en mesure de dire, je sais pas, je suis plus capable de faire mon ancien job de vendeur de char, mais je fais de la moto. Parce que la moto, il reste que, c'est vrai que les motos sont plus confortables, mais tu es en position antéfléchie, qu'on appelle, là. Tu es plutôt penché par en avant. Ça prend un bon ballon, ça prend une bonne concentration. Il faut que tu sois capable de vivre un certain niveau de vibration aussi. Il faut que tu sois capable de déplacer l'engin même quand il est immobile. Alors, quand tu dis que tu fais de la moto allègrement, ça témoigne d'une bonne capacité. Ça veut dire que tu as assez bien recouvré ton accident. Alors, moi, ça m'influence parce qu'au tribunal, ces questions-là sont posées. T'sais. Ah bon, vous faites de la moto. Puis vous dites que vous n'êtes pas capable de laver la vaisselle. T'sais. Alors, il faut être cohérent.
Mais ouais, c'est ça. C'est quoi le pourcentage? Parce que vous aidez les accidentés de la route depuis des décennies, là. Puis je suis pas mal persuadé parce que je sais que vous avez des très grandes valeurs fondamentales, puis vous les respectez. Puis c'est la raison pour laquelle j'adore vous parler chaque semaine. Puis j'espère que cette collaboration-là va se faire sur des décennies, là. Mais c'est quoi le pourcentage de gens que vous avez côtoyés en tant qu'avocat, des gens qui tentaient de se battre contre la SAAC pour être indemnisés, qui étaient des fraudeurs? C'est un faible pourcentage ou c'est un pourcentage qui est assez élevé selon vous?
Mais fraudeur, le mot est fort un peu. Des fois, les gens ne sont pas conscients qu'il y a des contradictions dans leur façon de parler. T'sais. Comme par exemple, je t'ai parlé de la moto tantôt. Tu sais, quand tu as un mal de dos important qui fait que tu n'es pas capable de rester assis plus que 20 minutes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris du dos qui vont te dire, moi, je change de posture aux 20 minutes. Puis plus la journée avance, plus je suis intolérant, de sorte qu'après dîner, je suis obligé de m'allonger parce que la position allongée, c'est la position la plus confortable pour moi parce qu'il n'y a pas le poids du corps sur le disque blessé. Mais si tu fais de la pêche, puis de la chasse, puis de la moto, tu n'as pas bien ben de chance d'être cru. Alors, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, moi, j'ai été opéré dans le dos 2 fois, j'ai une hernie discale, j'ai des tiges de métal dans le dos. J'ai été opéré, etc. Mais je ne peux pas travailler, je suis un invalide total. Puis en même temps, tu vois dans le dossier que cet individu-là fait de la chasse, qu'il va à pêche, donc il déplace sa chaloupe, il est assis de longues périodes dans une position où il y a un certain balancier. Quand dans une chaloupe, tu n'es pas comme sur un plancher de terrazzo dans une vieille église, là. Tu n'es pas sur une surface. Alors, moi, mon rôle, c'est de mettre en contradiction avec ça, puis de dire, écoute, tu seras pas cru, là. Tu sais, tu racontes ça, tu seras pas cru, là. Si tu veux être cru, là, ben là, à un moment donné, il y a des problèmes dans le dossier, puis moi, si je pense que je gagnerai pas ta cause, je vais te le dire. Des fois, on peut anticiper. Des fois, on anticipe tant qu'on peut, mais c'est au procès que ces affaires-là sortent. Comprends-tu? Alors, dans ce temps-là, évidemment, il n'y a pas beaucoup de correctifs possibles qu'on peut apporter au témoignage de l'individu, mais des fois, les gens ne sont pas nécessairement de mauvaise foi. Ils sont juste pas assez. Ils ont juste pas assez de jugement ou de discernement pour comprendre qu'il y a une contradiction importante dans leur position.
Puis
C'est surtout ça.
est-ce
Parce qu'il y a
que
des vrais fraudeurs, là,
ouais.
des gens qui vont dire moi, je vais inventer de toute pièce un problème. Écoute, en assurance auto, là, Yannick, là, tu as le dossier hospitalier, tu as la radiologie. Tu as l'urgence, tu as les tests de dépistage de traumatisme crânio-cérébral, les commotions, tu as des rapports médicaux, ça, tu mens pas avec ça, là. Sauf que, est-ce que ça, ce dossier-là, te permet de convaincre un juge que tu n'es pas capable de faire un job d'assembleur de matériel électronique ou de vendeur de pizza? T'sais? Alors, c'est ça la question souvent. Fait que, là, il faut que tu sois capable de mesurer tes chances de succès parce que le client paye pour ça, puis lui. il veut avoir le plus de chances possible de gagner, même si on n'a jamais de garantie de réussir devant un tribunal, il y a toujours un risque. Quand tu vas en cours, tu prends un risque, hein, c'est sûr.
Et dans votre carrière, Maître Bellemare, est-ce que c'est déjà arrivé une fois où vous avez dit à un client « Moi, je n'ai plus confiance en toi, je ne te crois pas, puis je ne m'embarquerai pas là-dedans. » C'est-tu déjà arrivé?
Oui, ça arrive comme ça, mais il y a toutes sortes de façons de le dire aussi.
OK.
Il y a des fois que tu vas simplement dire « Écoute, à mon avis, on ne réussira pas. Il y a trop d'éléments dans le dossier qui sont contradictoires. » Exemple, en accident de travail sur la CNESST, quand tu te blesses puis tu fais un rapport à la CNESST, normalement, ton employeur va te demander un rapport d'incident. Fait que là, tu remplis une petite formule, tu mets 3-4 phrases pour raconter que tu es tombé en sortant du frigidaire puis tu as glissé sur une flaque de graisse. Comprends-tu? Tu travailles dans un abattoir ou dans une boucherie.
Ouais.
Bon. Alors là, tu remplis le formulaire, puis là, tu écris de telle manière que tu es tombé de telle manière. Tu dis tombé. Là, tu t'en vas à l'urgence, puis là, le médecin te demande de raconter, puis là, tu dis que tu as glissé. Tu dis pas que tu as tombé. Après ça, tu t'en vas voir ton physiothérapeute parce que ton médecin t'envoie un physio, puis le physiothérapeute, lui, il marque que t'as manqué d'équilibre. Puis après ça, tu vas raconter ton affaire à un psychologue, puis t'as tes facteurs. Moi, je regarde les 5-6 déclarations que tu as faites à 5-6 personnes différentes, puis je vois qu'il y a comme un problème. C'est-à-dire que ça ne peut pas marcher tout ensemble. Puis le juge, il risque de dire qu'il y a tellement de versions contradictoires que ça fait en sorte que tu ne seras pas cru. Puis pour gagner, ça donne qu'il faut être cru. Alors quand je vois ça des fois, puis je ne peux pas corriger la situation, c'est tout écrit, c'est tout noté, puis je n'anticipe pas des résultats, je vais dire simplement, écoute, moi je pense que tu ne gagneras pas, alors... S'il y a un autre avocat qui veut prendre ton chèque, là, tant mieux pour toi. Mais moi, je pense que quand je pense que je ne gagnerai pas, j'y vais pas, en toute conscience. Alors, des fois, il va y aller tout seul, des fois, il va prendre un autre avocat, des fois, il va abandonner son recours. Mais encore faut-il que ça tienne la route. Mais des fois, les gens ne font pas bien attention. T'sais. Ils racontent ça à leur manière, puis c'est un peu désinvolte, là, sans trop se concentrer, sans trop réfléchir. Puis à un moment donné, j'ai eu un cas, le gars, il avait levé une batterie de char. À une place, t'as marqué 75 livres. À une autre place, t'as marqué 25 livres. À une autre place, t'as marqué 30 kilos. Alors, j'avais des poids qui variaient quasiment de 50 livres. Alors, ouais. J'ai dit, regarde, t'as dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. Ben oui, t'as dit ça, c'est marqué. Ouais, ouais, mais là, j'ai jamais dit ça. Ben c'est marqué. J'imagine que. Alors, à un moment donné, tu peux pas. Tout le monde ne peut pas se tromper en même temps. Et ça aussi, ça joue dans l'étude des dossiers qu'on fait avant de prendre un mandat. Là.
Incroyable. Maître Bellemare, on parle un petit peu d'actualité. En fin de semaine, il y avait l'excitante course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec qui doit se choisir un nouveau chef le 14 juin prochain. À la tête de cette course à la chefferie-là, visiblement, il semble y avoir un Pablo Rodriguez qui semble trôner dans cette course-là. Et le deuxième et mon choix à moi, Charles Billiard, pour être capable d'aller chercher le Québec en entier avec les régions et les grosses villes. Moi, je vois Charles Milliard comme chef du Parti libéral du Québec. On a aussi un Carl Blackburn qui est arrivé dans les dernières semaines. Lui qui s'était désisté au départ, finalement, la santé lui a permis de se présenter. Arrive bon troisième. Puis je regarde les autres qui ne sont pas piqués des verres. Je pense à l'avocat Marc Bélanger et il y a aussi l'économiste Mario Roy qui est un agriculteur beauceron qui veulent être de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Mais jusqu'à maintenant, ça semble être un Pablo Rodriguez qui trône au sommet. Et dans les dernières heures, c'est-à-dire ce matin, on a appris que Gregory Kelly et Marwa Risky ont décidé de donner leur appui à Pablo Rodriguez. J'ai l'impression, puis peut-être que vous m'expliquerez quelque chose qui va me faire changer d'idée, mais j'ai l'impression que le Parti libéral du Québec n'a pas compris qui est uniquement montréalais actuellement, puis qui aurait besoin d'un chef qui soit capable de passer dans les régions plutôt qu'un chef qui va encore une fois faire élire des députés à Montréal au niveau anglophone et francophone. Puis pour le reste, ben garde, advienne que pourra, les régions, on n'en a pas de besoin. C'est particulier, ça.
Ouais, à part Rodriguez puis Blackburn s'est maintenu dans l'actualité. Lui, c'est l'ancien député de Roberval. J'ai siégé avec lui, moi, Carl Blackburn, en 2003. 2004, c'est un bon gars, c'est un bon garçon. Lui, c'est oui. Le fils d'un ancien député ministre de Roberval. Son père était aussi en politique. C'est un chic type, très gentil. Il s'est maintenu dans l'actualité, Carl, à travers le Conseil du patronat. Fait que ça lui a permis de développer une certaine crédibilité. Il a représenté le point de vue patronal dans les médias, dans quantité d'entrevues, des colloques, des représentations au niveau des commissions parlementaires. Donc, c'est un candidat quand même sérieux.
Ouais. Son père, c'était-tu Gaston Blackburn, de mémoire?
Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Son père était. Je me demande même s'il ne l'a pas remplacé tout juste. Ou en tout cas, il y a peut-être eu un député entre les deux, là, mais ils étaient tous les deux du comté de Roberval. M. Milliard, c'est sûr que c'est du 109. Lui, il n'a jamais siégé. Il n'y a pas d'expérience parlementaire, mais Bon, est-ce que les libéraux vont faire confiance à un chef qui n'a pas d'expérience, mais qui gagnerait à être connu? Parce que là, écoute bien, là, on est en 2025 et l'élection va avoir lieu en octobre 2026. C'est pas long, là. Tu as un été là-dedans, tu as deux étés, là. L'été, là, c'est pas bien ben le temps de se faire connaître. Il n'y a pas grand monde qui écoute les nouvelles. C'est assez limité au niveau du transfert d'informations. Fait que là, tu as deux étés à l'intérieur d'une période d'à peu près un an et demi. C'est pas long pour se faire connaître. Alors, c'est sûr que les militants qui se disent « Nous autres, on veut être au pouvoir ou on veut avoir une bonne députation libérale à l'élection de l'automne 2026 », ben, il va être porté à aller chercher des candidats qui sont déjà connus. Puis Rodriguez, il a une bonne longueur d'avance sur la question de la notoriété.
Mais pendant des années, il était au fédéral sous un gouvernement hyper dépensier qui ont creusé le déficit au Canada d'une façon épouvantable. Et je retire les années de pandémie, puisqu'il n'y a jamais personne qui aurait pu se sortir de là sans blessure. Mais il devra, parce que là, le Parti libéral du Québec a toujours été reconnu comme étant fort en économie. Il y a tout le temps eu une gestion rigoureuse de l'argent des gens. Bon, vous allez me parler de certaines commissions qui ont eu lieu dans les dernières années, mais il était fort au niveau économique. Là, tu as un Pablo Rodriguez qui arrive, qui est au-dessus de ses affaires, qui est pressenti pour être le roi en arrivant. Et, ben, à un moment donné, il va falloir qu'il parle d'économie, Pablo Rodriguez. Il va falloir qu'il parle de son ancien patron, qui était Justin Trudeau, qui dépensait à qui mieux, et lui ne dénonçait pas ça. Je veux dire, je peux pas croire qu'on lui donne cette route-là en disant « Voici ta route vers le sommet, puis anyway, peu importe ce qui arrive, on va te mettre sur le trône. » Il sera jamais capable d'être accepté en région, puis c'est le nerf de la guerre pour le Parti libéral. Ils sont plus capables de sortir de Montréal. Montréal est rouge et orange, mais elle n'est pas bleue. Elle n'est pas bleu pâle non plus. Va falloir aller chercher le Québec en entier pour le Parti libéral, puis avec un Pablo Rodriguez, ça passera pas, M. Delmore.
Ouais, mais ton argument aurait été bon il y a trois mois. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est moins bon. Sais-tu pourquoi?
Pourquoi?
Parce que Rodriguez est capable de tourner ça à son avantage. Parce que tous les griefs qu'on a faits au gouvernement libéral fédéral auquel appartenait M. Rodriguez, tous ces griefs-là ont été écartés par les électeurs à la dernière élection fédérale. C'est ça la question.
Il faut faire attention parce qu'il y a un Trump.
Je comprends qu'il y a un autre leader.
Mais il y avait un Trump qui était l'ennemi au fédéral. L'eau provinciale, Trump est pas
mais
là.
Au Québec aussi. Mais là, Rodriguez, il peut facilement dire « Je connais Mélanie Joly pour avoir siégé avec elle. Je connais Dominique Leblanc, ministre des Finances, pour avoir siégé avec lui. Je connais M. Champagne, le député de Champlain. C'est tous mes potes, c'est tous mes amis. J'ai été au gouvernement du Canada pendant une dizaine d'années avec ces gens-là. Donc, je suis en mesure de communiquer les besoins du Québec à Ottawa devant ce gouvernement-là qui va être là en 2 et 4 ans à venir. » Alors, tu sais, moi aussi, je trouve que les libéraux sont dépensiers, puis moi aussi, je trouve que ça n'a pas de bon sens de la façon dont Trudeau a géré le Canada, puis Rodriguez faisait partie de sa gang. Mais là, on a l'impression, ce gouvernement-là a quand même été réélu, là, puis tous les députés qui, comme Rodriguez, ont trop dépensé, ont été élus avec des majorités encore plus fortes qu'en 2021. Fait que je sais pas, moi je pense que le fait que le gouvernement du Canada soit composé essentiellement d'alliés proches de M. Rodriguez, alors qu'il est au gouvernement du Canada, je pense que ça l'aide plus que ça nuit. Aujourd'hui. Mais il y a trois mois, je t'aurais dit oui, c'est vrai, parce que là, tout le monde est en maudit contre la gang de libéraux fédéraux qui dépensent sans compter. Mais là, ils sont au pouvoir. Fait que c'est un atout pour lui, là.
Mais est-ce que la victoire compte? C'est ce que je me pose comme question. Parce que là, je me dis, moi, sincèrement, je reconstruirais le Parti libéral du Québec avec un jeune, avec une vision, avec un plan clair, en sachant très bien que pour avoir la victoire aux prochaines élections, ça va être difficile, mais on mise peut-être sur 2030. Parce que y aller avec un Pablo Rodriguez, c'est d'y aller trop facile. Puis je parlais avec Antonin Iaccarini sur l'heure du midi dans mon show. Je suis un peu d'accord avec elle. Pablo Rodriguez s'est présenté au débat en fin de semaine avec des slogans qui n'avaient comme pas de bon sens, aucune profondeur. Le gars semble déjà déterminé que c'est lui qui va être chef du Parti libéral, tandis qu'on avait un Charles Milliard puis un Carl Blackburn qui travaillaient très fort, qui peut vous ouvrir de la place en région sans possible pour des députés. Mais je ne sais pas où va le Parti libéral du Québec. Si vous me dites que c'est un concours de popularité puis qu'il va dire, bien, savez-vous quoi, au Canada, c'est un gouvernement libéral, j'ai fait partie de ce gouvernement-là, je vais faciliter les choses. Si vous me dites que ça, c'est un appui majeur, c'est bien correct. Mais en région, Pablo Rodriguez, je suis régulièrement en Beauce, Pablo Rodriguez passe pas, il passe pas du tout.
Oui. Mais tu sais, le Parti libéral du Québec, là, c'est ce que les Anglais appellent le Natural Governing Party. C'est-à-dire que c'est le parti politique qui a gouverné le plus le Québec depuis le début du siècle, le début du 20e siècle, même il y a 100 ans. Un peu comme les libéraux fédéraux sont le Natural Governing Party aussi. C'est le parti qui a été le plus longtemps au pouvoir. On a l'impression que le principe, c'est ce parti politique-là, puis l'exception, c'est un autre parti. Comme au Québec, les libéraux ont été là longtemps, et depuis le Sage, depuis 1960, les libéraux ont été là, sauf quelques épisodes péquistes et quelques épisodes caquistes. Mais essentiellement, les libéraux, on se souvient de Le Sage avec sa gang, on se souvient de Bourassa, 70-76, Bourassa qui revient en 85 jusqu'en 94, Charest qui revient en 2003 jusqu'en 2018, parce que, écoute, à part 2012-2014, où Pauline Marois a été là, les libéraux qui ont été là essentiellement. Et c'est un parti de pouvoir. Les libéraux, ils aiment ça, être au pouvoir. Et moi, je pense que les militants, ils vont voter pour toutes sortes de raisons, mais ils vont voter prioritairement pour le candidat qui a le plus de chances d'être au pouvoir en 2026.
Mais Bellemare, il ne peut pas être au pouvoir.
Ils ne voteront pas pour un gars qui va les amener dans l'opposition pendant 6 ans.
Bien, ça va être ça, parce qu'ils vont juste avoir Montréal, puis ils ne peuvent pas avoir une majorité pour Montréal. Ça prend quelqu'un qui va être capable d'aller chercher les régions, pas juste Montréal. Mais bref, qui vivra verra, Maître Bellemare.
Mais tous les candidats, ils sont 5, là.
Oui.
Si Pablo Rodriguez est élu, puis je pense qu'il va l'être, tous les candidats battus vont être ben chum avec. As-tu vu l'espèce de débat, toi? C'est le faux débat de samedi. C'est une vraie joke.
Oh, oui.
Chummy, il aurait été à la brasserie en train de prendre une bière, ça n'aurait pas été pire.
Ben, c'est d'ailleurs ce que j'ai...
Il n'y a pas de débat d'idées dans ce parti-là.
C'est d'ailleurs
ils veulent être au pouvoir. Il n'y a pas de débat d'idées. Ils sont tous d'accord. L'économie, l'immigration, contre le PQ, contre la séparation, c'est toujours pareil. Ouais. Mais il n'y a pas véritablement de débat d'idées, encore moins que dans la campagne fédérale. Je trouve que Carney a eu plus de misère à accéder à la chefferie du Parti libéral que Rodriguez pourrait en avoir au Québec. Alors, ils vont tous se rallier, puis ils vont tous être candidats la prochaine fois, mais les membres vont voter pour quelqu'un, le candidat qui a le plus de chances d'avoir le plus de députés possible, puis idéalement, d'être élu éventuellement comme premier ministre.
Qui vivra verra, Maître Bellemare.
Bien sûr.
Est-ce que c'est une surprise pour vous qu'Éric Duhaime choisisse de rentrer dans la partielle dans Arthabasca?
Non, ça ne m'a pas surpris du tout. Et je pense qu'il a toujours pensé se présenter dans Arthabasca depuis qu'Éric Lefebvre a décidé de quitter la CAQ pour s'en aller avec les conservateurs fédéraux. Mais la victoire d'Éric Lefebvre, à mon avis, ça a été le point déterminant parce qu'il y a un député conservateur dans Arthabasca au fédéral. Éric Lefebvre, là, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ouais, ça va-tu marcher? » Un gars qui a laissé son poste de député de la CAQ, Il était whip de la CAQ, il démissionne,
Mais
il provoque une partielle, il s'en va au fédéral, il change de niveau, gna gna gna. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il y avait peut-être de l'insatisfaction dans son comté. Il a rentré assez confortable dans Arthabaska comme député conservateur. Je comprends bien que toute l'équipe de militants qui ont été pour Éric Lefebvre au conservateur fédéral, les gangs, là, les militants qui se sont regroupés, qui ont développé des stratégies, les listes électorales, les appuis conservateurs. Écoute bien, moi je pense que c'est un scénario rêvé pour Éric Duhaime. Je pense qu'il a de très bonnes chances d'être élu dans Arthabasca, un comté rural, beaucoup de petites PME, beaucoup de petites entreprises et beaucoup de gens qui ont leur voiture en automobile, puis qui sont écœurés de payer pour des taxes sur l'essence, puis etc. Je pense que le discours de Duhaime va être assez porteur dans Arthabasca. Maintenant, quand est-ce que l'élection va être déclenchée? Monsieur Legault a jusqu'au mois de septembre pour déclencher. Je pense qu'il ne sera pas trop pressé. Moi, là. Mais en même temps, il ne veut pas trop se coller sur le scrutin de 2026. Fait qu'il a peut-être intérêt à convoquer l'élection. Moi, je pense qu'au mois de juin, il va annoncer une partielle. La date de la partielle dans
Oui,
Tabasco, là. Ça
effectivement,
devrait être avant
je suis
l'été.
d'accord avec vous pour ce qui est du mois de juin, mais est-ce qu'un François Legault veut un Éric Duhaime d'impact à l'Assemblée nationale, alors qu'au Canada, c'est des déficits par-dessus des déficits, même affaire pour ce qui est du Québec, avoir un gars de droite économique à l'Assemblée nationale qui va pouvoir lui poser des questions directement, ça va être tough pour Legault, ce qui pourrait présenter une candidature vedette dans le comté d'Arthabasca pour ne pas faire passer Éric Duhaime, parce que je sais que le Parti québécois a annoncé qu'il allait effectivement mettre une belle candidature dans le secteur d'Arthabasca, mais jusqu'à maintenant, à moins que je me trompe, là, François Legault n'a pas ouvert la porte à une candidature extrêmement forte pour lutter contre Éric Duhaime, mais jusqu'à quel point, en faisant ça, la CAQ ne se met pas un bâton dans les roues en laissant rentrer Duhaime à l'Assemblée nationale? C'est sûr qu'il représente quand même au-dessus de 500 000 personnes au Québec. Donc, ça vaudrait la peine d'avoir une belle représentativité à l'Assemblée nationale de ces gens-là. Mais pour François Legault, ce serait terrible, un Éric Duhaime, là, en cette période d'incertitude économique, là.
C'est sûr que le problème au Québec pour la CAQ, c'est que le PQ, la CAQ et les libéraux courtisent à peu près toute la même clientèle.
Exact.
Ils sont tous au centre-gauche. Ils sont tous du côté des programmes sociaux, du côté des dépenses, du côté des déficits. On est là-dessus, on est au centre, on veut pas trop baisser les impôts, on veut pas couper d'un service, on taxe, on taxe, on taxe, ils sont là-dedans. Alors, toute la droite est dans les mains d'Éric Duhaime. La droite, c'est important. Les jeunes sont à droite, les impôts, les taxes, ils n'en veulent plus. Ils sont très craintifs par rapport au déficit. Ils se disent, bien, les vieux ont endetté le Québec, puis à ça va être à nous autres à payer pour ça. Il y a un peu de frustration intergénérationnelle. Et je les comprends. Moi, j'ai des enfants dans la vingtaine là, qui sont très inquiets de voir l'état des finances publiques, puis qui se disent, on n'est pas écoutés. On va être juste là pour payer les dettes des générations qui nous ont précédés. C'est un discours qui est très porteur. Et moi, je pense que Éric Duhaime doit être élu. Il a sa place à l'Assemblée nationale pour que la droite du Québec puisse s'exprimer à travers lui. Et pas juste sur les questions à poser à l'Assemblée nationale, parce que s'il est député d'Arthabasca éventuellement, ça ne lui donnera pas le droit de poser trois questions pendant la période de questions à tous les jours, là. Parce que ça dépend du nombre de députés, ça dépend de ci, de ça, puis le président doit répartir le droit de parole en fonction du gouvernement, puis du nombre de députés pour chaque parti. Mais sa seule présence, effectivement, risque d'avoir un effet. Les journalistes de la Tribune de la presse vont lui demander son avis à peu près sur tous les sujets. Puis s'il arrive un an avant une élection générale, je pense que il peut aller chercher quelques députés additionnels à l'élection générale de 2026, puis ça peut être le début d'une belle période pour les conservateurs québécois.
Parce que je lisais Mario Dumont ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, et lui, ce qu'il disait, c'est malgré la présence de quatre partis à l'Assemblée nationale, on a toujours l'impression que la patinoire reste bien libre à droite, comme on dit ce
Oui, c'est
soir.
ça.
Il
Exact.
continue en disant « La décote du Québec a donné tout un coup à la coalition Avenir Québec. Le parti est coincé à justifier que ses grosses dépenses et généreuses conventions collectives étaient fondée pour le bien du public. Or, les électeurs sont surtout surpris par cet échec de la part d'un parti de comptables et d'administrateurs, et ils sont peu impressionnés par les réelles améliorations des services publics, notamment en santé. Et ce qu'ils racontent aussi, c'est que le Parti libéral tente de reprendre sa crédibilité sur le thème des finances publiques, mais les efforts sont timides et les francophones semblent toujours insensibles à ces messages. Lui dit « Méfiez-vous d'Éric Duhaime parce que c'est un solide candidat qui peut rentrer à l'Assemblée nationale. »
Oui, c'est ça. Puis il y aurait, comme tu dis, comme Mario Dumont l'a dit, tout un espace politique, médiatique à exploiter à droite, c'est-à-dire tout le courant de pensée qui affecte, qui est mondial et qui touche à peu près tout le monde. Même M. Carney au fédéral a centré beaucoup le discours libéral. Il est sorti de la gauche, il est rendu plus au centre. Alors, il s'en va vers la droite, taxe carbone pour les particuliers, on laisse tomber ça. On va, tu sais, il fait plus attention au niveau de son orientation politique. En Angleterre, ça a été la même chose. On est allé du côté du centre par rapport à la gauche, même pour le Parti travailliste. Ça fait que, tu sais, c'est mondial et je pense qu'ici, surtout chez les jeunes, et les conservateurs ont fait quand même bonne figure, même au Québec, ils ont augmenté leur pourcentage de vote. Ils ont un nouveau député dans Arthabasca. Et moi, je pense qu'il va y avoir M. Duhaime, en tout cas, a de bonnes chances. Il ne fait pas de faux pas dans sa campagne. Puis je peux te dire que ça fait longtemps qu'il travaille là-dedans parce que moi, j'ai été appelé à faire une conférence au dernier congrès du Parti conservateur du Québec sur la question de la justice. Et puis, ça s'est passé précisément dans Arthabasca, dans le comté d'Arthabasca, parce qu'il pressentait probablement qu'il allait y avoir une élection partielle à cause que M. Lefebvre avait déjà décidé de s'en aller au fédéral. Et il y a une bonne base, puis il y a déjà une bonne équipe électorale en place dans Arthabasca pour les conservateurs. Alors, oui, je pense que M. Legault n'a pas besoin d'un Éric Duhaime à l'Assemblée nationale, mais je pense que les chances sont quand même bonnes qu'il puisse y accéder, peu importe le candidat que M. Legault mettra, parce que les partiels, on le sait, ça appartient pas au gouvernement en place. C'est ce qui s'est passé. Je me souviens, René Lévesque, 76 à 81, il y avait eu, je pense, 11 ou 12 élections partielles. Ils avaient toutes perdues. Toutes les partielles. René Lévesque les a perdues entre 76 et 81. Puis pourtant, en 81, il a été réélu majoritairement. Mais les partielles, c'est souvent la claque du père Francis pour le parti au pouvoir.
Autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est un homme qui a été condamné à 28 mois d'incarcération. Pourquoi? Parce qu'il aurait agressé sexuellement sa femme. Sa femme lui disait qu'elle ne voulait pas faire l'amour avec lui et lui a forcé des relations sexuelles avec elle. La première fois, ça s'est fait. Ça demeure quand même une agression sexuelle. Et la deuxième fois, quand il s'est réessayé, la dame a décidé justement de quitter pour aller en centre d'hébergement puis porter plainte contre son conjoint, qui est maintenant son ex-conjoint. Maître Bellemare, en 2025, il y a encore des maris, des conjoints qui ne connaissent pas la notion de consentement. On en parle assez régulièrement dans l'actualité, dans les médias. Un non, c'est un non et vous n'avez pas à forcer une relation sexuelle quand la personne ne veut pas le faire. Et lui, ce qu'il disait à sa femme, c'est « Écoute, c'est un petit 5 minutes pour me faire plaisir, tu dois le faire. » C'est encore surprenant d'entendre ce genre de cause-là devant les tribunaux.
Mais je ne suis pas sûr que c'est si isolé que ça, si rare que ça. Parce que souvent, sous le couvert d'un couple qui fonctionne bien, il peut y avoir des fois des attitudes forcées. Il faut qu'il y ait un consentement, évidemment. Le consentement, ça peut prendre diverses formes. Mais dans ce cas-ci, le juge Sébastien Proux, au palais de justice de Montmagny, a décidé que ce gars-là s'en irait en prison pendant 28 mois. C'est quand même une peine assez sévère. Je vais t'avouer que j'ai été assez surpris. 39 ans, mais je suis bien content parce que les crimes sexuels, on a juste tendance à avoir des jugements des fois qui sont beaucoup trop permissifs et beaucoup trop légers. Mais dans ce cas-ci, on a 28 mois de prison. Et avec inscription au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. Alors, je n'étais pas là au procès, je n'ai pas entendu les témoins, je n'ai pas vu ce qui s'était dit puis ce qui s'était plaidé, mais effectivement, ça mérite d'être connu et ça mérite de faire savoir aux conjoints, mariés ou pas, que ça prend un consentement dans tous les cas pour les rapports sexuels. Mais sais-tu à quoi ça m'a fait penser? Moi, j'ai fait mon droit à l'Université de Montréal entre 75 et 79. Ça a été ma scolarité à l'Université de Montréal. Pas ça, j'ai fait mon barreau au Québec. Mais à l'époque, là, le Code criminel canadien ne prévoyait pas que le viol était une infraction à l'intérieur d'un couple. Moi, là, à l'université, quand j'avais mes cours de droit criminel, on disait le viol, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas d'agression sexuelle. Ça a commencé en 82, les agressions sexuelles. Avant ça, on appelait ça un viol. Et tu ne pouvais pas violer ta femme. C'était pas possible. Alors, tu ne pouvais pas être accusé d'avoir violé ta femme. Alors, ça a pris une modification. En 1982, l'infraction exigeait la preuve qu'un homme a eu des relations sexuelles avec une femme autre que la sienne sans son consentement. Et là, c'est là que le Parlement a adopté la loi C-127 qui a aboli l'infraction de viol pour la remplacer par des infractions de nature sexuelle. Et à ce moment-là, la loi C-127, en 82, a aboli l'immunité entre les conjoints. Les relations sexuelles entre conjoints devaient dorénavant être consensuelles. C'est incroyable, hein? Tu pensais à ça?
Ben, puis c'est,
Tu as toujours pensé que c'était illégal, que c'était criminel de violer ta femme,
ben oui,
mais non, elle l'est depuis 82.
exact. Pour les jeunes qui nous écoutent, là, qui ont 18-19 ans, ils disent, voyons, dans le temps, il était fou, mais non, c'est juste que dans le temps, c'était comme ça. Moi, je me souviens pas d'avoir lu ça à l'époque parce que j'étais trop jeune dans l'actualité, mais n'en demeure pas moins que, tu sais, c'est un avancement, là, pour la cause des femmes quand on a pris cette décision-là, là. Quand c'est un non et les hommes doivent respecter ce fameux non-là. Mais oui, pour nous, Maître Bellemare, c'est comme si c'était hier, là.
Ben non, 82, écoute, c'est incroyable. Et là, on a élargi, bien sûr, en amenant le concept d'agression sexuelle, mais là, ça prend toutes sortes de formes. Parce qu'un viol, à l'époque, c'était la jurisprudence, ça prend-tu une pénétration, ça prend pas une pénétration, un toucher, etc. Mais là, avec la jurisprudence, c'est-à-dire les jugements de cour qui ont été rendus, on sait qu'on retrouve un baiser à caractère sexuel, c'est un baiser sur la bouche, sur les fesses, sur les seins, sur les parties génitales. Mais un baiser sur la bouche, ça peut être considéré, si ce n'est pas consenti, comme étant une forme d'agression sexuelle.
Ah ouais.
T'as pas vu ça en Espagne? Je pense que c'est en Espagne, un championnat de soccer féminin, où le coach est allé féliciter une joueuse, puis il a donné un bec sur la bouche, il a perdu sa job. Il a été disqualifié de la fédération de soccer de son pays. Puis je pense qu'il a été accusé au criminel. Un baiser sur la bouche qui n'est pas consensuel peut constituer, ça dépend des circonstances, mais ça peut constituer une forme d'agression sexuelle. Puis évidemment, il y en a de toutes les sortes, là. Mais par exemple, l'envoi, une forme d'agression suivante sont souvent banalisées. J'ai trouvé ça sur le site du ministère de la Justice, mais les formes d'agression sexuelle peuvent être l'envoi numérique d'un sextape ou d'un dick pic, un envoi numérique, le harcèlement criminel, le frotteurisme, ça c'est se frotter les parties génitales sur quelqu'un, l'exhibitionnisme.
Ça
T'as pas
arrive
le
dans le
déploiement.
métro. Ça, c'est ce que je me suis fait raconter
Dans le
là,
métro,
par
dans le
des
métro. Oui,
étudiantes.
il y a bien des filles qui vont dire dans le métro,
Ouais.
qui se sont fait tasser à Montréal quand le métro est plein, là.
Les filles
Oui.
sont debout, puis tout d'un coup, ils sentent quelqu'un se frotter le bas du corps directement sur leurs fesses. Je veux dire, ça doit. Nous autres, on n'a jamais vécu ça. Moi, il y a une de mes anciennes conjointes qui m'avait raconté. Yann, vous autres, là, vous avez jamais connu les gars ce que c'est que d'avoir peur de se promener le soir tard dans les rues, sur un trottoir, croiser une gang de gars, on change automatiquement de trottoir parce qu'on a constamment peur. Moi, j'ai jamais vécu avec ça, Maître Bellemare. Quand je vais à Québec en ville ou quand je vais à Montréal en ville, puis je me promène sur la Sainte-Catherine, peu importe l'heure, j'en ai rien à foutre, là, je m'en vais à ma destination, mais quand les filles te disent Yann, c'était peurant se promener dans la rue le soir tard. J'avais jamais réalisé ça, moi. J'étais pas une fille,
Ah, c'est ça. Ben,
j'étais un
les
gars.
gars, on est moins exposés, mais des fois, on peut avoir une petite crainte quand tu vois une gang de gars sur le coin de la rue qui parle fort, puis tout ça, tu peux te faire les poches, mais les risques d'être agressé sexuellement sont quand même beaucoup, beaucoup plus limités.
Ouais. Ben
Mais
souvent,
pour les filles,
je suis pas mal
oui.
moins bien habillé que la plupart des gens que je croise. Fait que j'ai un avantage. Ils m'attaqueront jamais pour le linge que je porte, Maître Bellemare. Ils doivent pas penser que j'ai un 20$ dans mes poches, comment je m'habille.
Oui, c'est ça. Bien qu'il y en a qui tuent pour 20
Mais
piastres
pour en
aussi, là.
revenir à notre zouave, là, qui a violé sa femme, Lui, il a pogné 28 mois de détention durant lequel, bien sûr, qu'il ne pourra pas communiquer avec sa conjointe et il va être inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. Là, il pogne 28 mois. Est-ce que ce gars-là est éligible à purger sa sentence à la maison?
Mais non, parce que c'est pas moins de 2 ans. Parce que les sentences, la loi C-5 que Trudeau a fait voter en 2022, là, qui permettait des peines dans la communauté, c'est pour des peines ou des infractions de moins de 2 ans.
Donc 2 ans moins un jour.
Oui, où il n'y a pas de peine minimale.
Okay. Donc le juge nous a fait une fleur en lui donnant 28 mois. Chose sûre, c'est qu'il va rester en dedans. C'est la bonne nouvelle.
Ça va être une peine de pénitencier. Et oui, il y a tout le processus de libération conditionnelle, évidemment, le comportement en milieu carcéral, etc. Mais c'est 28 mois. Alors, en tout cas, à moins que, je pense bien, la loi C-5 qui permet des peines bonbons ou les peines Netflix en communauté, qui est encore en vigueur, malheureusement, depuis 2022, comme tu le sais. Cette loi-là a permis à au moins un agresseur sexuel sur 5 de bénéficier d'une peine Netflix, donc à la maison et non pas en milieu carcéral. Depuis 2024, les chiffres sont assez révélateurs, inquiétants même, mais dans ce cas-ci, compte tenu que c'est une peine de 28 mois, ben, il n'y a pas de possibilité d'avoir une peine dans la communauté. Maintenant, est-ce qu'il va faire appel de ça? Je pense qu'il y a encore un délai pour faire appel de ça, possiblement. Mais j'aime bien, moi, voir des juges qui prononce des peines sévères. Je trouve qu'on en manque. Et je trouve que ces peines sévères-là montrent que les tribunaux ont encore une utilité dans notre société et que le fait que cette peine-là soit connue, qu'elle soit grandement médiatisée, qu'on en parle ce soir, bien, ça contribue, je pense, à faire en sorte que les victimes soient mieux protégées et ça contribue aussi à ce qu'on appelle l'exemplarité ou la dénonciation publique, qui est une des missions de la détermination de la peine. Quand le juge détermine la peine en vertu du code criminel, il doit tenir compte de ça. Ça fait partie des principes de sentencing, qu'on dit, d'exemplarité. Alors, dans ce cas-ci, je pense que M. le juge Proulx a atteint l'objectif parce qu'on en parle. Puis tous les gars qui pensent que parce que c'est dans la chambre à coucher avec leur femme, avec qui il est depuis 20 ans, sont à l'abri de toute poursuite, évidemment, toute accusation ben, se trompe parce que ça peut arriver.
Maître Bellemare, je veux vous parler du registre des délinquants sexuels, mais on doit faire une courte pause. On revient tout de suite. Je vous rappelle qu'à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec l'avocat Maître Marc Bellemare, c'est l'ex-ministre de la Justice. On fait une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Reg against le matin.
Monsieur Claude Villeneuve qui est en studio.
Je vous pose une série de questions. Oh. Ça prend des réponses d'à peu près 15 secondes okay. Maximum. C'est un bon exercice.
Parfait.
Pour un ancien chroniqueur, la taxe au chaud, on fait quoi avec ça?
On la garde pas.
Parfait. La réglementation sur les foyers d'ambiance, on arrête ça en 2030 ou on poursuit?
On donne un break au monde. Moi, je trouve que ça va trop, c'est implanté trop vite, puis on l'explique pas correctement, cette politique-là. Il y a plein de nuances, je pourrais pas les dire en 15 secondes, mais on va trop vite, là, déjà.
Taxe à l'immatriculation, on la garde ou on l'enlève?
Je la réduirai.
Saint-Roch, on lance ça comment?
J'aime Saint-Roch. On soutient les commerces. On développe un quartier latin dans Saint-Roch. On donne un break à Saint-Roch en générant une offre pour les itinérants à l'extérieur du quartier.
Parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec les taxes?
Ce cadre financier de la ville limite la hausse à l'inflation. Moi, je vais respecter ce cadre financier-là.
Rage Against le matin. Tous les jours en semaine, 6h.
Sinon, vous retrouvez tous nos coups de circuit sur le blvd.fm.
C'est ça.
Décourante, spécialiste en garde-corps verre et aluminium, vous offre des produits québécois sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15%. Visitez deco-rampe.com.
Salut Nissan!
Oh Karine, petit jeu pour toi. Nomme-moi les différences entre le Kicks Play et le tout nouveau Kicks.
OK, le Kicks Play reste toujours un VUS compact, mais le tout nouveau Kicks est redessiné en plus d'avoir la traction intégrale en option.
Mais tu connais bien tes Kicks, Karine?
Ouais, hein? Mais sais-tu ce qu'ils ont en commun?
Les deux profitent des offres de l'événement Décidé et Roulé.
C'est en plein ça?
Louez un tout nouveau Nissan Kicks sélectionné et choisissez entre un boni ou un crédit accessoire allant jusqu'à 1 200 $ ou 3 ans d'entretien prépayé. Jusqu'au 2 juin, sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent, détails chez Nissan.
Faites le plein d'idées réno chez Céramix. Découvrez plusieurs porcelaines grand format à partir d'$1,99. Profitez de 30 % de rabais sur les planchers chauffants et 40 % sur la membrane avec l'achat de Céramix. Mise de côté et entreposage gratuit. Céramix.ca. Hey,
savais-tu que chez Québec Brou, là, du dimanche au mercredi, la grosse bière est à 6,75 $ toute la journée? Non, tu sais, Québec Brou, on peut boire pour pas gérer.
Québec Brou, Vanier, Charlebourg et l'ancienne Lorette.
Pas pire, hein?
Chez Auvent Saint-Laurent, chaque projet est unique. Réalisé sur mesure, juste pour vous. Avec Auvent Saint-Laurent, vous choisissez des produits de qualité qui vous permettront de savourer l'été pleinement. Visitez Auvent avec un S-STL.com ou nos salles de montre à Beauport et Lévis.
Dites oui à une vie active avec Génacol antidouleur. Grâce à sa combinaison d'ingrédients naturels, vous ne serez plus limité par vos douleurs articulaires. Ce produit exclusif procure des résultats en seulement 5 jours et vous offre bien plus qu'un soulagement temporaire. Ajoutez Génacol antidouleur à votre quotidien et découvrez pourquoi il est le supplément pour la santé articulaire le plus vendu au Canada.
Génacol antidouleur est en promotion à 19,99$ chez Uniprix jusqu'au 7 mai. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Génacol, tu me fais du bien.
Mercado.fm vous présente son nouveau porte-parole. Qu'on paye pas parce que ça roule déjà très bien.
T'as bien raison! Voici les offres!
Obtenez une nuitée en micro-chalet d'une valeur de 270$ à 202$ chez Tanière Micro-Chalet Charlevoix. Ou encore une visite animée pour deux personnes d'une valeur de 50$ à 25$ avec les promenades fantômes.
Si ça, ça vous fait pas aller jeter un coup d'œil sur Mercado.fm, c'est parce que vous avez rien compris!
Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Chez Lunetterie Bellan, obtenez le meilleur prix garanti avec les forfaits monture et verre. 99$ pour les simples visions et 249$ pour les progressifs. Et pour un temps limité, économisez jusqu'à 100$ à l'achat d'une deuxième paire. Lunetterie Bellan, service, qualité, bas prix.
Pièces d'auto économiques pour des pièces neuves garanties et les meilleurs prix. En mai, les plaquettes de frein Bosch et les produits d'esthétique Silver Wax sont à 15% de rabais. Pièces d'auto économiques, maintenant 9 magasins au Québec. Pièceséconomique.com.
Les rabais de la circulaire de mai sont arrivés chez Mondou. Obtenez jusqu'à 15$ de remise en points câlins à l'achat de nourriture sèche Hills Science Diète Formule Perfect Weight pour chat et chien. D'ici le 14 mai, passez en magasin pour d'autres offres incroyables ou consultez lemondou.com.
La nouvelle façon de bouger à Québec, c'est chez Nubé Pilates. Devenez la meilleure version de vous-même à l'intérieur et à l'extérieur grâce au Pilates, un sport à bas impact qui vous fait gagner en force, en mobilité et en contrôle. Studio ouvert à tous. Visitez nubépilates.com.
Tu penses t'acheter une voiture prochainement? T'en veux pas une neuve, mais une comme neuve? Pour une voiture, c'est Charlebourg Toyota. Va voir nos comme-neuves au comme-neuves.com.
Vous avez des problèmes de fondation, d'humidité, de fissures ou d'odeur dans votre sous-sol? Vous avez un problème avec votre vide sanitaire ou votre pompe de puisard?
Pour tous les problèmes de sous-sol, Système Sous-sol Québec est la solution avec une garantie de 25 ans. Pour tout ce qui est sous-sol, sous-sol.ca.
Vous avez des varices qui vous gênent? Des symptômes de fatigue dans les jambes, d'enflure ou la sensation des jambes lourdes? À la Clinique de phlébologie de Québec, notre équipe de 5 médecins phlébologues peut vous aider. Pour plus d'informations, visitez ven.ca.
Boulevard 102.1, la radio qui t'accompagne partout. Un peu comme l'intelligence artificielle, mais sans t'espionner.
Papa, je suis obligé de mettre mon habit de main.
Fait que moins 25, moins 27, le ressenti. Assurez-vous d'être bien habillé demain matin, parce qu'il va faire plus frais.
Ah, tu me niaises-tu, là? Pourquoi c'est encore bouché ici?
Oui, il y a un accident, donc un incident sur... Voyons.
La route?
Sur la route, oui, là, sur Wilfrid Hamel. En fait, c'est pas vrai, c'est sur la capitale.
Boulevard 102.1. Quand t'en as besoin, sans le savoir.
102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1. Maître Marc Bellemare est avec nous comme à chaque lundi. Maître Bellemare, avant la pause, je voulais vous parler du fameux registre des délinquants sexuels. Vous avez souvent ramené dans l'actualité le registre des délinquants sexuels, le registre des pédos et tout ça. Vous aviez obtenu une promesse de la part du gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Je pense que c'était Geneviève Guilbeault à l'époque qui avait dit « On va militer pour un registre des délinquants sexuels qu'on pourrait consulter, qui serait public. » On en est rendu où avec ça? Est-ce que vous n'avez entendu parler, Maître Bellemare?
Non, bien, c'est que la petite histoire, c'est que Geneviève Guilbeault, si mon souvenir est fidèle, a été élue dans une partielle dans Louis-Hébert en 2017. Alors, je pense que c'est Sam Hamad qui avait démissionné à l'époque comme député de Louis-Hébert et qui a été remplacé par Mme Guilbeault. Pas sûr, mais probablement. Mme Guilbeault était une jeune députée, bonne communicatrice, jeune mère de famille, etc. Et en septembre 2017, en septembre 2018, plutôt, ça faisait un an qu'elle était élue, il y a eu une marche à Québec qui est partie du Cégep Garneau pour aller jusqu'au Parlement.
Ouais.
Une marche à laquelle ont participé plusieurs centaines de personnes, incluant 5 ou 6 candidats de la CAQ, qui n'avaient pas encore formé le gouvernement. Là. On était encore avec le gouvernement Couillard. Et je me souviens, François Paradis était là, Sébastien Lévesque était là, Mme Guilbeault était là, en tout cas, toute la gang de la CAQ était là. Et Mme Guilbeault a prononcé un discours à l'arrivée au Parlement en disant « Nous allons être élus au gouvernement et nous allons organiser ou mettre en place un registre pour les délinquants sexuels, un registre qui va être accessible à tout le monde. » Toutes les mères de famille inquiètes vont pouvoir aller sur le registre, ça va être public, ça va être gratuit, puis tout ça. Puis finalement, tu vois, elle ne l'a jamais fait. Puis pourtant, à l'élection de 2018, elle a été quand même nommée ministre de la Sécurité publique. Puis c'est précisément ce ministère-là qui aurait eu comme mission d'administrer le registre. Alors, on n'a toujours pas de registre au Québec, accessible, gratuit, général pour tous les prédateurs sexuels. On en a un au fédéral, mais qui n'est pas accessible publiquement. Tu ne peux pas cliquer, tu peux aller voir le pédo au coin de la rue, c'est quoi sa face, puis c'est quoi son pedigree, puis combien d'enfants qu'il a agressé, puis combien de prisons il a fait. Tu ne peux pas savoir ça. C'est juste les policiers eux-mêmes qui peuvent avoir accès au registre, qui s'en servent, par exemple, s'il y a un enlèvement d'enfants ou s'il y a un enfant qui est agressant quelque part dans un parc. Ils vont aller voir dans le périmètre autour du parc s'il n'y a pas quelques pédos condamnés, puis ils vont pouvoir aller les visiter pour voir s'ils ne peuvent pas développer une preuve autour de ça. Mais il n'y a pas moyen au Québec de savoir si telle ou telle personne est vraiment inscrite au registre des prédateurs sexuels du Canada, à moins d'être policier et d'avoir une excellente raison d'aller fouiller dans le registre.
Mais
parce
pourtant,
que le policier ne peut pas y aller pour ses raisons personnelles. Il peut y aller en autant que c'est dans le cadre d'une enquête pour résoudre un crime.
Mais pourtant, c'était une promesse que vous êtes fait faire par des politiciens. Puis Pierre-Hugues Boisvenu aussi s'était fait faire cette fameuse promesse-là. Mais je me souviens du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui avait fait une carte virtuelle où on avait mis les points où les agresseurs sexuels vivaient. Puis Maître Bellemare, cette carte-là était disponible à la grande grandeur du Québec. Puis je me suis dit, oh, tabarouette, tu sais, il va y avoir à peu près 200-300 personnes qui vont être dans le trouble, dans le secteur de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Drummondville. Mon Dieu, que je m'étais trompé. C'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont agressé sexuellement des individus. Et dans ma propre rue à l'époque, il y en avait deux. C'était mes voisins. Là. Puis avec cette carte-là, on n'était pas capable de savoir exactement c'était quel immeuble où il était. Mais on voyait clairement qu'il y avait les pédos puis les agresseurs sexuels, on voyait clairement où ils étaient. Tu sais. Qu'est-ce qui empêche les partis politiques de faire ce fameux registre-là comme on peut consulter aux États-Unis?
Ah, c'est les sacro-saints droits des détenus puis des agresseurs. Puis il faut protéger l'identité des agresseurs pour pas qu'il y ait de lynchage public, pour pas qu'il y ait de vengeance, pour pas que ces gens-là puissent être incommodés ou pour qu'ils puissent se retrouver des jobs et réintégrer la société. Toutes nos lois sont faites en fonction du bien-être et de l'avenir du criminel. On ne s'occupe pas trop des victimes. On a des beaux discours pour les victimes, mais je peux te dire que quand tu regardes le système judiciaire criminel qu'on a au Canada, c'est tout axé sur l'intérêt et la réhabilitation de la victime, et de l'agresseur plutôt. Et on a toujours considéré, puis on le fait encore, qu'un registre, ça pourrait nuire aux chances d'un pédophile condamné qui a fait son temps de se trouver une job, puis de refaire sa vie, puis de devenir un bon citoyen, même si on sait que les pathologies de nature sexuelle, puis les problèmes de pédophilie sont à peu près incurables. On peut juste les gérer, les encadrer. Mais on sait qu'on n'a pas des très, très gros succès en psychologie clinique pour guérir ce genre de pathologie-là. Mais je veux juste te dire aussi que moi, je trouve inacceptable qu'on ne puisse pas rapidement accéder à un registre qui nous permettrait de connaître l'identité de l'individu, le crime qu'il a commis et la peine de prison, la peine pour laquelle il a été condamné. Et quand je regarde... les gens qui ont été condamnés pour ce type de crime-là, On les voit dans le journal la plupart du temps. Un bon matin, là, tu te mets à regarder là, dans l'actualité, là, sur le web, là, pédophile, là, tu vas en trouver plein. Là. Puis on va donner leur nom puis leurs photos souvent. Là. Sauf qu'on va l'oublier.
Ouais.
Puis dans 3 mois, toi, ta fille qui s'en va garder chez ce gars-là ou chez le voisin de ce gars-là, tu vas avoir oublié que ce gars-là était condamné pour un crime sexuel. C'est pour ça que ça prend un registre. Le registre, c'est la mémoire. De la criminalité. C'est la mémoire, parce que notre mémoire personnelle ne nous permet pas de garder en tête le nom, l'identité, le pedigree de tous les gens qui font l'objet de l'actualité. On les regarde au bout de 15 minutes, on les a oubliés, à moins qu'ils soient célèbres, à moins qu'ils soient très connus. Tu sais, comme Luke Wiseman, c'est un gars qui a été condamné pour des crimes sexuels qui est très, très, très connu. Michel Verne, l'ancien éditorialiste du Devoir, c'est la même affaire. Très connu parce que c'est une personnalité. Mais ceux qui sont moins connus, ils rentrent dans l'anonymat. Puis ce qu'ils veulent, les pédophiles, c'est être dans l'anonymat. Ils veulent pas être retracés et reconnus. Mmh. Alors, c'est ça qui est le problème. Puis dans bien des cas aussi, Yannick, même dans l'actualité, tu n'as pas le droit de connaître le nom. Pourquoi? Parce que si c'est un père de famille qui a agressé sa fille, on ne donnera pas le nom du père.